السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. الحمد لله، on peut commencer parce qu'on a eu notre quart d'heure problème micro. Avant, ça, au début, ça agaçait, mais maintenant, c'est devenu tellement une routine que si on n'a pas le problème du micro au début, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alhamdoulilah, on a coché cette case-là, problème micro d'un quart d'heure. Donc, maintenant, on peut commencer serein, inshallah. Ala kulli hal, on s'était arrêté dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente de mettre les compagnons dans un refuge. Et donc la réflexion que le professeur Salem il a eue, c'est d'essayer de rassembler tout d'abord autour de lui les compagnons qui peuvent se rassembler autour de lui pour former entre guillemets un groupe qui peut se défendre, un noyau dur, et ensuite petit à petit se frayer un chemin jusqu'à ce qu'on appelle Sha'b al-Jirar, une sorte de sentier, une crevasse qui rentre à l'intérieur de la montagne Uhud, qui est difficile d'accès, et donc pour protéger les compagnons. On avait expliqué qu'on avait plusieurs versions qui étaient toutes faibles, et une version qui nous disait que le professeur sallam, le premier à l'avoir reconnu, c'est le compagnon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, et qu'il va même appeler les gens en disant « Hada Rasulullah, voici le messager d'Allah », parce que tout le monde le pensait mort, puisqu'il y avait une rumeur sur le champ de bataille comme quoi il avait été tué, et donc tout le monde le pensait mort. Et donc Ka'b ibn Malik, il va être surpris, mais en même temps content de reconnaître le professeur Hassim. Donc il va dire « Hada Rasulullah, voici le messager d'Allah », et en sous-entendu, il est vivant, il est là. Et donc le professeur Hassim va lui faire signe, selon ses versions, de se taire pour pas qu'il soit reconnu, mais des idolâtres vont l'entendre, et donc ils vont s'avancer, et il y a un échange d'armures, d'épées et de boucliers entre le professeur sallam et Ka'b ibn Malik pour brouiller les pistes pour les idolâtres. Et on a dit aussi qu'il y a une autre version qui décrit le fait que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui appelle les compagnons autour de lui pour qu'ils se rassemblent autour de lui et qu'il les amène petit à petit jusque le sentier. Et donc, nous, c'est là qu'on s'est arrêté. Le professeur sallam a amené les compagnons jusque Sha'b al-Jirar, le sentier de l'Jirar. Sauf que les versions nous disent que quand il arrive à ce moment-là, il va être rattrapé par un homme qui avait fait une promesse des années avant. Il avait promis qu'un jour ou l'autre, il tuerait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, c'est Ubay ibn Khalaf. C'est un des chefs idolâtres qui a survécu à la bataille de Badr, puisque la plupart des chefs idolâtres ont péri à la bataille de Badr. Ubay ibn Khalaf, pour ceux qui ont un peu la consonance des noms, ça ressemble à un autre homme dont on a parlé beaucoup avant la bataille de Badr et pendant la bataille de Badr, c'est Umayya ibn Khalaf. En fait, ils sont frères. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est Ubay ibn Khalaf. Celui dont on a beaucoup parlé avant, c'est Umayya ibn Khalaf, et ils sont frères, Ubay et Umayya. Ils sont frères. Umayya ibn Khalaf, c'était l'ancien maître de Bilal. Radiallahu anhu. Il avait torturé Bilal et tout ça. Umayya ibn Khalaf, c'était quelqu'un qui était hostile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous vous rappelez, il est mort à Badr, mais il avait tout fait pour essayer d'éviter d'accompagner l'armée des idolâtres à Badr. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le compagnon Saad ibn Mu'adh, qui était son ami. Saad ibn Mu'adh est de Médine. Umayya ibn Khalaf est de Mecca. Pourtant, ils étaient amis. Et donc, quand Saad ibn Mu'adh allait à la Mecque, il rendait visite à son ami Umayya ibn Khalaf, et il lui avait dit, on avait raconté cette histoire, il lui avait dit à Umayya ibn Khalaf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu mourras à l'extérieur de la Mecque. Que tu vas être tué à l'extérieur de la Mecque. En guise, entre guillemets, de premier châtiment et de première punition à cause de ton hostilité et de ton injustice. Umayya ibn Khalaf, il avait dit à son épouse, mon ami Saad ibn Mu'adh qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qu'il m'a dit. Et il a dit à son épouse, eh bien je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sortirai plus jamais de la Mecque. Parce qu'il croyait en cette prophétie, en cette promesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez que Saad ibn Mu'adh, quand il lui a donné cette parole, il lui a dit dans quel contexte ? Il lui a dit parce que Saad ibn Mu'adh, il est venu juste après le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à Médine et que les compagnons ont fait la hijra à Médine. Et donc les Quraysh de la Mecque, ils sont remplis de haine et de colère à ce moment-là contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les compagnons, mais aussi et surtout contre les gens de Médine qui ont donné ce refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons de leur échapper. Et donc quand ils voient Saad ibn Mu'adh arriver, qui fait le tawaf, ils ne sont pas contents. Et Abu Jahl intervient pour le lui interdire. Sauf que il y a son ami Safwan ibn Umayya qui lui dit, c'est mon ami, il est sous ma protection. Et Abu Jahl lui dit, pour aujourd'hui c'est bon parce qu'il est sous ta protection, mais à partir d'aujourd'hui nous prenons la mesure que plus aucun Médinois n'a le droit de venir dans notre ville et faire le tawaf librement et qu'on ne va pas l'emprisonner, on ne va rien lui faire. Alors qu'ils ont permis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de nous échapper. Et donc Saad ibn Mu'adh s'interpose, il répond à Abu Jahl. Et Safwan ibn Umayya, les deux sont ses amis, et en même temps il en veut aussi aux Médinois, donc il lui dit, et c'est dans ce contexte-là que Saad ibn Mu'adh lui dit, attention à toi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu dire ceci, cela. Et Umayya ibn Khalaf, quand va venir la bataille de Badr, et la mobilisation générale de la bataille de Badr, Umayya ibn Khalaf, il va dire aux gens de sa famille et de sa tribu, ils sont assez nombreux, nous ne les accompagnons pas. Mais lui, pourquoi il ne veut pas les accompagner ? Parce que il se rappelle qu'il y a une prophétie qui est sur sa tête, entre guillemets, une épée de Damoclès, qui dit qu'il va être tué. C'est pas il va mourir, il va être tué. Mourir, on peut mourir d'une maladie, on peut mourir d'un accident. À l'époque, il y avait peut-être aussi des accidents avec, entre les chameaux et tout ça, le mourir. On peut mourir de beaucoup de choses. Mais tuer, ça veut dire on va le tuer, c'est un assassinat. Ou une guerre, quelque chose de violent. Et donc, il est à l'extérieur de la Mecque. Et donc là, il y a une bataille. L'armée, elle doit sortir de la Mecque. Dans les batailles, il y a les gens qui sont tués. Donc là, il dit, ah non, là, toutes les conditions sont remplies pour que la prophétie, elle soit appliquée. Mais en même temps, il ne peut pas dire aux autres chefs idolâtres, je ne viens pas parce que je crois en ce que le prophète m'a promis. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'il se met officiellement en contradiction. Je refuse de le suivre, mais en même temps, ce qu'il promet, j'y crois. Je sais que c'est vrai. Donc il n'ose pas dire la véritable raison. Il dit, ils sont assez, ils sont suffisants, on n'a pas besoin d'y aller. Et Abu Jahl va voir un de ses amis, Uqba ibn Abi Mu'ayt, et il lui dit, ton ami Umayya ibn Khalaf, il a monté la tête à sa tribu et à sa famille pour ne pas participer à cette guerre. C'est honteux. Et ton ami est un lâche. Abu Jahl lui dit, moi si je lui parle par orgueil, il ne m'écoutera pas parce qu'on est entre guillemets deux chefs de tribu. Et donc face à sa tribu, il ne voudra pas entre guillemets s'incliner devant moi. Mais toi c'est ton ami et tu le laisses, tu dis rien. Donc Umayya ibn Khalaf, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, je vais m'en occuper. C'est son ami, il sait comment il doit lui parler. Donc il est rentré chez lui et il a pris un encensoir, hein, le genre d'objet, le petit récipient dans lequel on mettait des cendres et du musc pour parfumer. Ça existe encore aujourd'hui sous des formes différentes. Mais ça, généralement, aujourd'hui, on l'utilise pour les pièces, hein, pour parfumer, encenser les pièces. Mais avant, c'était un objet qui était utilisé par les femmes pour se parfumer. Non. C'est un objet qui était utilisé exclusivement par les femmes, à l'époque. Et donc, il ramène un encensoir, l'encensoir de son épouse, et Umayya ibn Khalaf est auprès de sa famille, de sa tribu, assis à l'extérieur, et lui, il amène Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'encensoir, et il le jette devant Umayya. C'est violent comme geste. Il le jette devant Umayya, devant tout le monde, et il lui dit Tabakhar, fa innama anta min an-nisa. Encense-toi, parfume-toi. Parce que de toute façon, tu fais partie des femmes. Tu es une femme. Avec tout le respect qu'on doit aux femmes. Même ça, je ne sais pas si on a le droit de le dire aujourd'hui. Alors je rappelle, c'est une parole qui a été dite par des idolâtres qui ne croient pas en l'islam et il y a plus de 1400 ans. Ça va comme ça, on peut éviter les problèmes comme ça. Et donc, ala kulli hal, il lui dit, tu fais partie des femmes. Et donc, évidemment, il comprend le message. Et donc, il se met en colère et il dit à toute sa tribu, rentrez chez vous, prenez vos armes, préparons-nous, on va leur montrer qui sont les véritables femmes. Et il va sortir, il va partir avec l'armée. Mais on raconte que dans l'armée, il traînait le pas. Sa femme, elle va lui dire d'ailleurs avant qu'il sorte. Et tu n'as pas dit toi-même que si tu sors de la Mecque, tu risques d'être tué. Et là, c'est la guerre. Ça veut dire c'est bon. Et lui, il va lui dire, mais non, mais je fais ça parce que sinon, ils vont penser que je suis lâche. Et ne t'inquiète pas, je vais traîner le pas. Et jusqu'à un moment, je vais tellement traîner le pas que je vais les laisser partir et je trouverai une excuse pour dire, j'ai pas pu vous rejoindre, je vous ai perdu. Mais je pars juste pour montrer que je suis prêt à les accompagner. Et pendant le voyage, Abu Jahl, qui a bien compris le petit manège de Safwan ibn Umayya, il le surveille. Et à chaque fois, il voit qu'il traîne le pas. Et dès qu'il voit qu'il traîne le pas, il le rejoint à Abu Jahl. Il dit, alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? T'as peur ? Pourquoi tu traînes ? Non, c'est ma chamelle qui est lente, mais tu vas voir. Et donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il est amené jusqu'à Badr. Et à Badr, il va être tué à Badr, comme le professeur Sam lui avait prédit. Donc là, je vous parle d'Umayya ibn Khalaf, mais c'est le frère de celui dont on va parler aujourd'hui. Et son frère, c'est qui ? C'est Ubay ibn Khalaf. Et subhanallah, si on en croit les versions qui sont faibles, il a reçu une prédiction qui ressemble à celle de son frère. D'abord, c'est lui qui a menacé. Il était très hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines versions faibles, on raconte même qu'il était violent à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il lui aurait craché même. Et donc, Ubay ibn Khalaf, on nous dit dans les versions qu'il va arriver au sentier de Jirar au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rassembler les compagnons et qu'il va réussir au moment où il arrive enfin au niveau du sentier de Jirar à la montagne de l'Uhud, Ubay ibn Khalaf, il le rattrape. On nous dit « Falamma asnada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » dans une version qui est rapportée par l'imam Tabari, فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il va arriver au sentier, أبي بن خلف le rattrape. أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا. Il arrive tout en criant et tout en répétant « Où est Mohammed ? C'est lui ou moi ?» Donc Ubay ibn Khalaf, il poursuit, il pourchasse ce groupe de compagnons. Il a compris que dedans, il doit y avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand il voit qu'il s'engouffre dans la crevasse du sentier de l'Jira, il vient lui aussi dans le sentier, il dit « Aïna Mohammed, la najawtu in naja. » Où est Mohammed ? C'est lui ou moi. Soit lui, il sera vivant, soit c'est moi qui serai vivant. Et la version nous dit فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَعْطِفُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا. Ô messager d'Allah. Donc les gens lui disent, les compagnons, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu veux que l'un d'entre nous le repousse ? Le professeur Hassan va dire « Da'ou, laissez-le. » « Falamma dana » Et lorsqu'il va se rapprocher, « Tanawala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-hirbata min al-harith ibn al-simma » radiyallahu anhu. Et lorsque Ubay ibn Khalaf, le professeur Hassan, il dit « Laissez-le. » Et ils veulent le repousser. Si on l'a pour protéger le professeur Hassan. Et lui, il est enragé. « Où est Mohammed ?» C'est lui ou moi. Un seul de nous deux peut rester vivant après cette bataille. Il veut faire un tête-à-tête avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons veulent protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, laissez-le. Laissez-le s'approcher. Et donc il s'approche. Et la version nous dit, falamma dana, lorsqu'il s'est approché, tanawala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-hirbata min al-harith ibn al-simma. Le professeur Sim a pris la lance qui était entre les mains du compagnon Harith ibn Sim. Il lui a pris la lance. Il a pris la lance. Il est pour se défendre. Et la version nous dit Faqala ba'dun nas. Certaines personnes précisent à propos de cette histoire, qui ont vécu cette histoire, certaines personnes disent Faqala ba'dun nas. فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايرن عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. Quand le professeur Sima a pris la lance de l'Harith ibn Sima. D'ailleurs, Harith ibn Sima, on en a déjà parlé. Ce compagnon de qui le professeur Sima a pris la lance. C'est un des compagnons qu'on a cité en exemple parmi les compagnons qui étaient autour du professeur sallam et qui ont défendu le professeur sallam jusqu'au bout. Harith ibn Sima, si vous vous rappelez, il y avait un cavalier qui était venu pour essayer de frapper le professeur sallam et il s'était interposé et il avait réussi à faire tomber ce cavalier et ensuite un autre cavalier idolâtre est venu, il l'a blessé à son épaule. Et ensuite un autre compagnon est venu pour le défendre. Mohim, pour résumer, c'est ce qu'on avait dit à propos de Harith ibn Sima il y a quelques semaines. Eh bien c'est de lui, c'est de ce compagnon que le professeur sallam prend la lance. Et certaines personnes qui ont vécu cet événement disent que lorsque le professeur Hassan a pris la lance, ils disent intafada biha intifada. Il a sursauté avec la lance, le professeur. Il a bondi. Il a pris la lance et il a bondi. Tatayarna anhu tatayura ash-sha'ra'i 'an dhahri al-ba'iri idha intafad. Il a sursauté. Et donc il a surpris les compagnons, son saut a surpris les compagnons, ils ne s'attendaient pas à ça, à un tel point ils disent que nous aussi on a sursauté, parce qu'ils ont été surpris. Et la métaphore qui est faite ici c'est « Tatayarna anhu tatayura sha'ra'i an dhahri al-ba'iri idhan tafad » Nous avons sursauté comme sursaute Shara, c'est quoi? C'est le moucheron ou le moustique qui vient embêter les montures, les chevaux, les chamelles qui viennent sur leur dos et qui viennent s'alimenter, et donc ils viennent les piquer. Et donc cette monture, la monture, qu'est-ce qu'elle fait quand elle sent le picotement? Elle sursaute, elle fait comme ça, ou elle sursaute pour se débarrasser. Et qu'est-ce qui se passe? La mouche en question, ou le moucheron, il part. Lui aussi, il saute, il part, il sursaute. Et donc la métaphore qui est faite ici, c'est celle-là. C'est de dire, quand le professeur Selma bondit avec la lance, on s'y attendait tellement pas que nous-mêmes, nous avons sursauté comme le moucheron, il sursaute lorsque la monture, la chamelle, elle fait un geste pour enlever et pour faire partir les insectes qui l'embêtent. Non. Ensuite, toujours dans cette version, ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة Et ensuite, le professeur Sam a été devant lui et lui a donné un coup de lance. Le professeur Sam lui a donné un coup de lance. Et la version nous dit « Tada'da'a minha an farasihi mirara » Il déviait du dessus de sa monture Ubay ibn Khalaf à cause du coup de lance qu'il a reçu. Mais ce coup de lance, c'est même pas un coup en vérité. Le professeur Salem, c'est comme s'il voulait le dissuader. Ça, comment on le sait? On le sait dans les autres versions qu'on va citer. Il lui a fait un coup de dissuasion pour l'éloigner. Et en vérité, il aura quoi? Comme les autres versions le prouvent, mais toutes les versions sont faibles. C'est-à-dire que cet événement, on est incapable de dire avec certitude qu'il est arrivé. Mais si on fait confiance à ces narrations qui sont faibles, alors même ces narrations, elles nous indiquent quoi? Elles nous indiquent que le professeur Sam ne l'a pas poignardé en vérité. Il repartira avec une simple griffure au niveau du cou. Il y en a d'une certaine manière, approche-toi plus et ce sera pire ce que tu auras. Mais les conséquences de ces griffures vont être gravissimes pour Ubay ibn Khalaf, comme on va le voir selon les autres versions. Et donc justement, ça nous fait passer à la seconde version, qui est elle aussi une version qui est rapportée par l'imam Tabari, mais qui est une version jugée par les experts du hadith mursala, c'est-à-dire qui est dans la chaîne de transmission interrompue au niveau des compagnons. Elle s'arrête au tabi'i. On ne sait pas, quand on remonte la chaîne de transmission, la dernière personne à nous raconter cet événement, c'est un tabi'i. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu au temps du professeur Salem, qui a vécu au temps de certains compagnons, mais même lui, on ne sait pas de qui il a entendu. Est-ce qu'il a entendu d'un compagnon, d'un autre tabiri? On ne sait pas. Et donc, on a un gros trou jusqu'au professeur Salem. On est incapable de dire si cette version, elle est authentique ou pas. Et donc, c'est le genre de version qui sont jugées faibles par les spécialistes de hadith, parce qu'il nous manque deux générations dans la chaîne de transmission qui pourrait nous permettre de faire une analyse ou une enquête de la chaîne de transmission. En tous les cas, c'est la version dans laquelle on nous dit que c'est le professeur Sam qui a appelé les compagnons pour les ramener à Shi'b al-Jirar. La version nous dit فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَدْعُ النَّاسَ وَيَقُولُ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ. Le professeur Sam s'est mis à appeler les gens et à dire auprès de moi, serviteur d'Allah, venez auprès de moi, serviteur d'Allah, venez auprès de moi, serviteur d'Allah. فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ 30 رَجُلًا. Et 30 hommes se sont regroupés et rassemblés autour de lui. فَجَعَلُوا يَسِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et ils se sont mis à marcher devant lui, autour de lui, à côté de lui. فَلَمْ يَقِفْ إِلَّا طَلْحَ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ. Et seuls les deux compagnons, Talha et Sahl ibn Hunayf, eux, ils se sont arrêtés. C'est-à-dire, le professeur Sam a avancé, il leur a dit, venez autour de moi. Et il a avancé vers le sentier de l'Jirar. Et cette trentaine de compagnons se sont mis autour de lui. Et ensuite, les autres vont s'agglutiner, vont arriver, parce qu'on le sait par d'autres versions. Et ils vont avancer tout doucement vers le sentier de l'Jirar. Parce qu'il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, ils subissent des attaques des idolâtres. Et cette version, elle nous dit que seuls deux compagnons, ils ne vont pas suivre. Ils vont rester, pourquoi ? Pour s'interposer face aux idolâtres qui attaquent et qui répètent leurs attaques contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le groupe de compagnons qui commence à se rassembler de plus en plus nombreux autour de lui. C'est qui sont ces deux compagnons ? Sahl ibn Hunayf et Talha ibn Ubaidillah. Et la version elle nous précise Fahamahu Talha. Et le compagnon Talha ibn Ubaidillah va protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فرمي بسهم في يده فيبست يده et il va recevoir une flèche Talha ibn Ubaidillah il va recevoir une flèche à la main qui va paralyser sa main et nous on avait déjà dit que Talha ibn Ubaidillah il va recevoir beaucoup de blessures parmi lesquelles une blessure qui va lui paralyser la main à vie. Depuis la bataille de Uhud, il a une main qui est paralysée. Et donc là, dans cette version faible, on a le détail de cette blessure. C'est une flèche qu'il a reçue au moment où il protège le professeur Salem, de manière particulière. Et de manière générale, il protège tous les compagnons qui sont autour du professeur Salem et qui essayent de se frayer un chemin jusque chez Abel Djirar. Et donc cette version, elle nous dit... وأقبل أبي بن خلف. أبي بن خلف est arrivé. À ce moment-là, au moment où ils arrivent vers Shi'b al-Jirar, Ubay ibn Khalaf arrive. Et la version nous dit وكان قد حلف ليقتلن النبي صلى الله عليه وسلم. Et il avait juré à la Mecque qu'il tuerait le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Je vais revenir sur les détails du contexte, à quel moment il a dit ça. On a une autre version qui nous le raconte en détail. Donc il avait juré à la Mecque qu'il tuerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam lui avait répondu à la Mecque, c'est moi qui te tuerai. Fata'anahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya tafir. Le professeur Hassan va lui dire à ce moment-là, il va le reconnaître. Et lui, déjà, il cherche le professeur Hassan pour le tuer. Le professeur Hassan va lui dire, menteur, où fuis-tu ? Je t'avais dit que tu allais me tuer. Tu es un menteur. Et pourquoi tu fuis ? Et tu fuis où ? Fahamala alay. Et donc là, Ubay ibn Khalaf, il attaque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيب الدرع فجرح جرحا غير كبير. Le prophète صلى الله عليه وسلم va lui donner un coup de lance au niveau du trou de l'armure. Non. Et justement, on suppose, en concordance avec les autres versions, que le trou de l'armure il se trouve ici. Entre le cou et la poitrine. Et la version nous dit فَخَدَشَهُ خَدْشَنْ غَيْرَ كَبِيرٍ. Et il l'a griffé même pas d'une grosse griffure, d'une petite griffure en fait. Il a une petite griffure. نعم. فَوَقَعَ يَخُورُ خُوَارَ الثَّوْرِ. Et il est tombé et il s'est mis à renifler comme le fait un taureau. Elle est comme, ça va pas, il va vraiment pas bien. Il tombe par terre. Il reçoit une petite griffure, tombe par terre et il se met à renifler comme le ferait un taureau qui est à terre, qui est agonisant. Fahamalou. Donc les idolâtres, ils l'ont pris en se disant il a reçu un grave coup, une grave blessure. Et quand ils le regardent, en fait, ils voient qu'il y a une toute petite griffure. Enfin, ils lui disent Malladhi yujzi'uk. Fama jurihta jurhan kabira. Qu'est-ce qui te met dans cet état ? Tu n'as pas une grave blessure. Et il va leur répondre.
قال في مكة أنا أقتلك.
il m'avait dit à la Mecque, c'est moi qui te tuerai. فلو فعلها بربيعة ومضرة جميعا لقتلتهم فلم يلبث يوما أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح. Il leur dit, je sais que c'est pas une grave blessure et que c'est qu'une petite griffure, mais il avait promis que c'était lui qui me tuerait. Il l'avait promis à la Mecque. Et donc il lui aurait suffi même de mettre, s'il avait promis la même chose aux deux grandes tribus de Modar et de Rabi'a, et de leur faire une petite griffure comme ça, pour tous les tuer sans qu'aucun ne survive. Donc entre guillemets, ce qu'il est en train de dire, il dit, je sais que je suis mort là, c'est tout. Puisqu'il a réussi à me toucher, et qu'il avait promis, et que ce qu'il dit se réalise, c'est tout. Je vais mourir. Et la version nous dit, فَلَمْ يَلْبَثْ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ حَتَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ. Et il n'est pas resté une journée ou une partie d'une journée. Il n'a pas fait long feu, entre guillemets. Il est mort le jour même. Il n'a pas terminé la journée. Il est mort de quoi ? Il est mort de cette blessure. Non. Donc cette deuxième version, elle nous indique bien que Ubay ibn Khalaf, la blessure qu'il aurait reçu, j'utilise le conditionnel parce que je vous ai dit cet événement, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il est arrivé à la bataille de Uhud parce que toutes les versions qui en parlent sont faibles. La blessure qu'il a reçue n'est pas une blessure qui peut le tuer. Mais entre guillemets, c'est la promesse du professeur Hassan qui l'a tué et lui-même le savait. Et c'est étrange de voir que beaucoup d'idolâtres croyaient en les paroles du professeur Hassan, mais ne croyaient pas en son message. Et certains peuvent même considérer que ce n'est pas possible. Si tu sais que ce que cet homme dit, tout ce qu'il dit est vrai, pourquoi tu refuses de le suivre alors ? Eh bien, c'est la même question qu'on peut poser pour Shaitan, Iblis. Ne s'est-il pas rebellé contre Allah Azza wa Jal et contre les ordres d'Allah ? Pourtant, lui sait carrément, il a vu Allah Azza wa Jal. Lui, il nie même pas l'existence d'Allah, il sait qu'Allah existe. Il sait qu'Allah est l'unique Dieu, l'unique créateur. Mais c'est quoi son problème ? Allah Azza wa Jal le dit. Aba, wastakbara. Il a refusé d'obéir. Il s'est enflé d'orgueil. Et il a fait partie des rebelles, des mécréants. La désobéissance, elle conduit pas forcément à la mécréance. Beaucoup de musulmans commettent des péchés, mais c'est quoi qui l'a conduit à sa mécréance ? C'est son orgueil. Il a désobéi. Pas parce qu'il était négligent ou parce qu'il n'avait pas trop envie, il a désobéi parce qu'il était plein d'orgueil. Dans l'autre verset du Coran, قال ما منعك أن تكون من الساجدين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant Adam lorsque je te l'ai ordonné? Il a dit أنا خير منه. Il a dit, moi je suis meilleur que lui, l'orgueil. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Tu m'as créé du feu, des flammes, et lui, tu l'as créé de l'argile. Alors moi, je suis mieux que lui. Non. Et donc tout ça, ça nous montre bien que, même si ça peut nous paraître à nous paradoxal et contradictoire, c'est l'intérieur de l'être humain qui est comme ça. Il sait que cet homme dit vrai, que lorsqu'il parle, il ne ment jamais, et pourtant, il est incapable de dire « je me soumets à ce qu'il dit ». C'était le cas de Ubay ibn Khalaf, c'était le cas de son frère qui est mort à Badr, Umayya ibn Khalaf. C'était le cas pendant une grande partie de sa vie d'Abu Sufyan, même si, alhamdoulilah, il va finir par se convertir à l'islam, puisqu'on verra que lorsqu'il va rencontrer l'empereur byzantin, et qui va lui poser des questions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire non, il n'a jamais menti. Il va dire, est-ce qu'elle a déjà menti dans sa vie? Il va dire non, il n'a jamais menti. Il va lui dire la vérité. Hein. Et les gens vont lui dire à Abu Sufyan, pourquoi tu lui as dit qu'il n'a jamais menti? Il a dit, bah, parce que c'est la vérité. Et donc les gens de la Mecque, ils vont lui dire, on sait que c'est la vérité, mais il ne fallait pas lui dire.
Puisque si nous-mêmes, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on refuse de s'y soumettre, mais nous-mêmes on admet qu'il ment jamais, ben c'est problématique. Parce que l'empereur byzantin, il va pouvoir considérer que même quand il nous appelle à l'islam, ça veut dire qu'il dit la vérité aussi. Abou Soufiane, il a dit, moi aussi j'ai voulu mentir quand il m'a posé cette question. J'ai voulu mentir et j'ai voulu lui dire, non, il a déjà menti, hein, on a des preuves qu'il ment, que c'est un menteur. Mais tout le monde sait qu'il ne ment pas. Et donc l'empereur byzantin aurait pu vérifier cette information et il aurait pu arriver facilement à la conclusion que c'est moi le menteur. Et je ne voulais pas que Abou Soufiane, le chef des Arabes, soit traité de menteur. Ala kulli hal, attachons-nous maintenant à comprendre dans quelle, parce qu'on vient d'entendre dans cette version qu'Ubay ibn Khalaf, même s'il a reçu qu'une petite griffure et qu'il tombe par terre et qu'il renifle comme le fait le taureau agonisant, et qu'ils lui disent, mais tu n'as rien, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais il avait dit qu'il allait me tuer. Donc cette simple griffure, elle aurait pu tuer même les tribus de Mudar et de Rabi'a si le professeur Hassan leur avait promis la même chose qu'il m'avait promis à moi. Dans quel contexte le professeur Hassan lui a dit, c'est moi qui te tuerai? Ben ça, c'est une troisième version qu'il nous raconte, une version qui a été rapportée par Ibn Ishaq, qui elle aussi est jugée faible. Mais on la raconte pour essayer, comme on l'a dit, c'est l'histoire, c'est la biographie, on peut utiliser des versions faibles juste pour raconter l'histoire, tout en sachant qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que cet événement est arrivé. Dans cette version, Ubay ibn Khalaf nous dit « Kana Ubay ibn Khalaf yalqa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Ubay ibn Khalaf avait l'habitude de rencontrer le professeur sallam à la Mecque et de lui dire « Ya Muhammad » Inna indi al-awd. Ô Muhammad, j'ai un cheval. Donc il rencontrait régulièrement, il croisait le professeur Sim tous les jours à la Mecque. Et lui disait, j'ai un cheval, j'ai une monture. Inna indi al-awd. Al-awd, en arabe littéraire, ça veut dire al-faras, le cheval, al-khayl. Al-awd, ça ressemble aussi à darija. On dit aussi dans certaines régions. Du Maroc, on utilise l'aoud. Pour parler de quoi? Pour parler du cheval. Ça vient de là, de l'aoud. Il dit, inna indi l'aoud. U'lifuhu kulla yawmin farqan min dhura. Sa'aqtuluka alayh. J'ai un cheval que je nourris, hein, que je gave d'une bonne dose de grains. Chaque jour, je te tuerai sur ce cheval. Il lui dit, j'ai un cheval à la maison, il ne me sert à rien, Yanni. À quoi il le sert? Il attend juste le jour où il va pouvoir combattre, attaquer le prophète sur ce cheval pour le tuer. Et il le nourrit que pour ça. Il l'engraisse que pour ça. Pour qu'il soit prêt au jour où il va faire face au prophète et tuer le prophète Mohammed. Et donc il dit, إن عند العوض أعلفه كل يوم فرقا من ذرة سأقتلك عليه. Je te tuerai alors que je serai sur cette monture. Et le prophète sallam, il lui répond, donc toujours à la Mecque, أنا أقتلك إن شاء الله. C'est moi, si Allah le veut, qui te tuerai. Si Allah le veut, c'est moi qui te tuerai. بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير et lorsqu'il va retourner auprès des Quraysh, Ubay ibn Khalaf, alors que le professeur Sam l'a griffé d'une petite griffure, وقد خدشه خدشا غير كبير يرجع الى قريش وهو يقول قتلني والله محمد. Je jure par Allah que Muhammad m'a tué. Et lui, eux, ils vont lui dire « Wallahi, laqad dhahaba fu'aduk. » Wallah, ton cœur s'en est allé, yani, tu as perdu la tête. C'est une façon de dire « Tu as perdu la tête. » Wallahi, imbika ba'san. Il le regarde, il dit « Mais tu n'as rien. » Une petite griffure. Et toi, tu dis « Wallahi, qatalani Muhammad. » Tu dis « Wallah, Muhammad m'a tué, mais tu n'as rien. » Et il va dire, كان قد قال لي أنا أقتلك. Il avait dit, c'est moi qui te tuerai. نعم. فوالله لو بصق علي لقتلني فمات بصرف وهم قافلون إلى مكة. Il avait dit qu'il allait me tuer. Alors je jure par Allah que s'il l'avait juste postillonné sur moi, il m'aurait tué avec son postillon. Je sais que ça va me tuer. Cette petite griffure que vous dites, elle va me tuer parce qu'il l'avait promis. Et s'il lui aurait suffi qu'il postillonne sur moi pour me tuer. Donc, je vais en mourir. Et la version elle nous dit qu'il va mourir sur la route à un endroit qui s'appelle Saraf, à peu près 7 à 8 kilomètres de la Mecque, alors qu'ils sont de retour de Uhud vers la Mecque. Non. Donc pour résumer, ce qui va se passer à l'entrée du sentier de Al-Jirar, avec cette menace que représente Ubay ibn Khalaf et qui va être tué, on va dire de manière indirecte, par le professeur sallam, parce qu'il ne lui donne pas un coup mortel, cet événement, les chaînes de transmission qui le rapportent sont faibles. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il est arrivé, mais en tous les cas, s'il est arrivé, c'est un événement qu'on a raconté. Hassan ibn Thabit va faire un poète, va faire des rimes, Afwan, c'est un des poètes du professeur sallam, il va faire des rimes qui parlent de cet événement, et il va dire: ألا من مبلغ عني أبي لقد ألقيت في سحق السعير تمنيك الأماني من بعيدي. Qui d'entre vous peut transmettre de ma part à Ubay? Qui peut transmettre à Ubay de ma part? لقد ألقيت في سحق السعير. Transmettez-lui de ma part. Tu es jeté dans les flammes ardentes de l'enfer. Donc Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu, fait ce poème, s'il l'a fait, c'est après justement cet événement. Il dit, transmettez de ma part, voilà, tu as été jeté dans l'enfer. Tu as été envoyé en enfer. Tamanni kal amani min ba'idi. Ce que tu espérais de loin, qu'est-ce qu'il espérait de loin? Alors qu'il est à la Mecque, il espérait que c'était lui qui allait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il disait. Et il engraissait même sa monture juste pour ça, pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il dit dans ses rimes, tamannika al-amani min ba'idi wa qawlu al-kufri yarji'u fi ghururi. Et ta parole de rebelle, ta parole hostile, n'a fait que te duper, que te tromper. Non. فقد لاقتك طعنة من ذي حفاظي كريم البيت ليس بذي فجوري. Tu as reçu un petit coup من ذي حفاظي, d'un homme que tu as mis en colère. كريم البيت, qui est pourtant si doux et si généreux. كريم البيت ليس بذي فجوري. Et il n'est pas corrompu. Non. C'est un long poème, on va se contenter de ces rimes-là. Cet événement, il nous montre aussi une chose. C'est que depuis le début, quand on parle de Uhud et de ce que le professeur Sim a fait, on a l'impression que le professeur Sim est de côté. Cet événement, même s'il est faible dans la chaîne de transmission, il montre que le professeur Sim savait se défendre et qu'il participait au combat. Et d'ailleurs, on a une version qui est cité par le Mubarak Fouri dans Rahiq al-Makhtoum, où il nous dit que selon le compagnon Qatada ibn Nu'man, radiyallahu anhu, le professeur sallam a jeté tellement de flèches avec son arc qu'il a fini par briser son arc. Non. Donc le professeur sallam aussi se défendait. Ce n'était pas juste qu'il était caché et les compagnons le défendaient. Non. Mais en tous les cas, enfin, le professeur sallam, avec les compagnons qui sont autour de lui, il arrive dans le sentier de Al-Jirar. Mais ils ne sont pas totalement sauvés. Parce que le professeur Sim, quand il va se rendre dans le sentier de Al-Jirar, certes, il est bien protégé, parce que pour rentrer dans cette crevasse, c'est une personne par une personne. Donc les idolâtres, ils ne peuvent pas venir s'aventurer comme ça, puisque les compagnons, ils sont là, ils défendent l'entrée. Mais des idolâtres vont commencer à grimper sur les côtés, et donc ils sont à la merci des idolâtres qui montent sur les rochers, et les compagnons sont en dessous, dans la crevasse. Et donc là, ils peuvent être pris au piège. Et donc les idolâtres, évidemment, ils vont saisir l'occasion, et ils vont commencer à monter sur les rochers pour essayer de s'occuper des musulmans qui ont trouvé refuge dans cette crevasse. Et donc le professeur Somme va devoir prendre aussi une décision ici. Que faire pour se protéger et pour sauver ce qui reste de son armée? Mais ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.